Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je reviens évidemment sur l'effondrement de ce pont à Baltimore, donc dans le Maryland. Quelques informations ont été précisées hier. D'abord, il y a toujours 6 travailleurs qui manquent à l'appel. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, pratiquement nul, là, de retrouver vivants ces travailleurs pour toutes sortes de raisons, la chute, température de l'eau. Bref, on est convaincu que malheureusement, ils ont perdu la vie. Deuxième élément important, c'est préliminaire, mais ça donne quand même un début de réponse à ce qui s'est passé. Ce qu'on comprend, c'est que ce porte-conteneur, donc qui est immatriculé à Singapour, un équipage du Sri Lanka, et je rappelle, c'est un bateau énorme qui se déplaçait pratiquement 900 quelques pieds, là, aurait complètement perdu sa puissance. Et à ce point qu'il s'est mis à dériver. À l'intérieur, l'équipage, tous les membres d'équipage réguliers étaient au travail. Et comme c'est souvent le cas, on demande à des pilotes locaux de diriger le navire dans le corridor maritime du port de Baltimore. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette perte complète, espèce de blackout. Et heureusement, on a déclenché une alerte et ça a permis aux autorités, aux policiers notamment, de bloquer l'accès et faire en sorte qu'il n'y ait pas de voiture qui se retrouve sur le pont. Sinon, le bilan aurait été plus lourd. Vous me direz, comment se fait-il qu'il y avait encore des travailleurs? On sait qu'on en a retrouvé 2. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont ils sont demeurés là? Est-ce qu'ils ont entendu l'alerte? Est-ce qu'on a pensé? Aucune réponse pour l'instant. Mais il y avait quand même donc ces travailleurs qui, dit-on, sont pour la plupart des travailleurs d'origine étrangère, donc des migrants, des emplois temporaires pour évidemment faire de l'entretien sur cette structure. L'autre élément qui est plus troublant, c'est qu'on apprend que le bateau avait connu un certain nombre de problèmes dans le passé. Des problèmes, semble-t-il, de même nature, là. C'est-à-dire des problèmes de propulsion. Et là, j'irai pas dans la mécanique comme telle. D'abord, je connais pas ça. Puis deuxièmement, on va attendre de voir les expertises. Mais il semble qu'il y a eu une inspection l'an dernier au Chili et on avait noté certaines déficiences dans le système de propulsion. Également, il y a eu une inspection le 27 juin qui montre toujours ces problèmes-là. Est-ce qu'ils ont été corrigés, réparés? Est-ce que ça a été négligé? Encore là, pas de réponse. Mais ce qu'on comprend, c'est que le bateau a vraiment dérivé. Ils ont tenté de le redresser. Ils ont même lancé l'ancre pour éviter de frapper le pilier. Et malheureusement, le navire a percuté le pilier en question. Le porte-conteneur a frappé et tout s'est effondré. Alors, c'est une tragédie terrible. Hier, on parlait avec des experts, et vous l'avez entendu hier matin, qui disent « c'est pas comparable ». Avec la situation des ponts du Saint-Laurent. Les structures sont beaucoup plus solides. Les piliers ont été renforcés quand, par exemple, au pont La Violette, à une certaine époque, on s'interrogeait. Autrement dit, c'est beaucoup plus sécuritaire. Les bateaux sont moins gros sur le Saint-Laurent que ce porte-conteneur en question. Maintenant, Québec, nous dit la presse, va déposer aujourd'hui, c'est le ministre Jolin Barrette, une réforme du Code civil concernant, on pourrait appeler ça, une nouvelle union parentale. Et là, on est dans le débat de la réforme du droit de la famille. Et c'est important parce que la nature des couples a évidemment changé au fil des années et il n'y a pas eu d'ajustement. Maître Schirm, qui collabore souvent à l'émission, a travaillé très, très fort pour faire avancer cette notion-là de responsabilité entre conjoints, même quand on n'est pas légalement marié. Le professeur de droit Alain Roy a présidé ce comité consultatif et les gouvernements qui se sont succédés depuis 10-15 ans veulent pas trop toucher à ça. Pardon. Et il semble que cette fois-ci, la CAQ va aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que ça va contenir? Je ne sais pas. On va avoir le détail, mais rappelons-nous quand même les enjeux. Et ça suscite beaucoup de passion. D'abord, quand il y a des enfants en cause, il y a des responsabilités parentales qui existent chez les conjoints de fait. Mais à l'époque, quand on a eu Lola, fameux procès, et qui avait fait pas mal jaser, il y a beaucoup de gens qui étaient inquiets de se faire marier de force. Et à l'époque, les commentaires, c'était, c'est pas vrai que si j'ai fait le choix de pas me marier, que l'État va me marier, que l'État va m'imposer, en cas de rupture, des obligations financières, on va vivre chacun de notre côté. C'était ça, là, la discussion, et c'est probablement ce qui a freiné les gouvernements dans le temps. Donc, ce procès de Éric et Lola avait comme établi une nouvelle base juridique. Il y avait eu des réformes, entre autres, de pouvoir reconnaître que quand vous avez des enfants, ben vous avez des obligations alimentaires et ça inclut parfois des paiements à l'autre conjoint pour une période de transition. Donc, est-ce qu'on va créer de nouveaux droits, de nouvelles obligations? Ce sera précisé au cours de la journée. Maintenant, tout doucement, on commence à mesurer les impacts du dernier budget du ministre des Finances, Éric Girard. Et c'est assez spécial, je dois dire, parce que on comprend que le mot austérité terrorise. C'est tellement identifié au Parti libéral sous Philippe Couillard que la CAQ veut pas que ce mot-là circule. On va optimiser les dépenses. Alors, les exemples, c'est la presse qui nous dit que le CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal prévoit qu'il y a une centaine de postes qui seront supprimés. Et ce sont des postes de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières auxiliaires. Là, tu t'attends un peu. Il me semble qu'on manque de personnel, qu'on court à l'étranger pour trouver du monde, pour occuper des postes, qu'on a fait des formations accélérées. Et là, la machine du CIUSSS nous répond que la période de pandémie étant terminée, qu'il y avait eu des ajustements dans le temps, que ces postes-là ne sont plus nécessaires. Par contre, il y a des postes vacants sur lesquels les gens pourront appliquer et rester à l'emploi du CIUSSS. Question très simple. Il manque-tu de monde ou pas dans le réseau de la santé? Alors, là, on verra de quelle façon ça va faire mal. Puis comment dans les autres CIUSSS et CIS, on va aussi procéder. Ça arrive également alors qu'on a une étude qui est publiée par l'Institut économique de Montréal, qui est un organisme conservateur de droite, comme vous avez d'autres organismes qui sont plus à gauche. C'est des lobbies. Et habituellement, moi, je fais très attention à leurs chiffres parce qu'il y a souvent un biais idéologique de rattacher à ça. Là, ce qu'il nous raconte, c'est que François Legault, depuis qu'il est au pouvoir, a embauché grosso modo 10 000 personnes de plus. Il devait réduire la taille de l'État, ce qui n'a pas été fait. Premier constat. Le deuxième, OK, mais quel genre d'emplois supplémentaires se sont ajoutés dans la machine? Et quand vous regardez le tableau, on se rend compte qu'au fil du temps, ce sont des emplois, d'abord, de cadres qui ont été ajoutés, des emplois d'encadrement. C'est une augmentation, selon le tableau, de 14, presque 15 % de professionnels à 16 % Puis là, après ça, personnel de bureau, technicien, personnel infirmier, 7 % personnel enseignant, 6 % Alors, c'est une augmentation quand même importante. Mais là, si on embauche plus de profs, tant mieux. Puis on court après les profs. Si on peut améliorer l'efficacité du système de santé, parfait. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'encadrement? La question, elle se pose. Est-ce qu'on a rapatrié de l'expertise, je pense entre autres au ministère des Transports, au lieu de donner des contrats à des firmes de génie, alors qu'on avait comme déshabillé le ministère à une époque, en se disant que au moins ils vont travailler pour l'État et non pas pour des intérêts privés? Alors, c'est une partie de réponse, mais ça demeure flou. Mais c'est clair. Et en même temps, les gens demandent plus de services. Tu sais, que ce soit l'accès à un psy, l'accès à des professionnels en éducation, orthopédagogues et autres. Fait que si vous les embauchez, c'est clair que ça fait en sorte qu'il y a une augmentation du nombre d'employés au total. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire la taille de l'État autrement? C'est un peu l'exercice qui est en train de se préparer en douce. Il n'y a pas un ministre qui sort et qui s'en vante là, actuellement. Et juste pour conclure, concernant la santé, Le Devoir nous parle ce matin de situations de stress et de détresse chez les infirmières qui ont été recrutées à l'étranger. Il y en a beaucoup qui font le choix de venir travailler au Québec. Des infirmières issues, par exemple, du Maghreb, de la France, de la Belgique, bref, de la francophonie. Et selon Le Devoir, il y a à peu près environ 1000 infirmières qui sont arrivées et qui connaissent des difficultés d'intégration. Il y en a 300 qui ont passé l'examen de l'ordre. Il y en a 737 qui sont toujours en formation et une cinquantaine qui ont échoué ou abandonné en cours de route. Ce sont des données officielles du gouvernement. C'est un programme de 65 millions. Et l'autre réalité, c'est que elles n'ont pas envie nécessairement d'aller travailler dans des régions éloignées. Il y en a, mais peut-être pas en nombre suffisant. Dernière note concernant la santé. Quand on voit le temps d'attente pour les chirurgies, quand on regarde la complexité de se trouver un médecin de famille, et non seulement d'être inscrit sur une liste, mais de pouvoir obtenir des rendez-vous, il y a des auditeurs qui m'ont écrit et qui ont résumé ça de la façon suivante. Et je le partage avec vous parce que je trouve que c'est une belle ligne. À quand un arrêt Jordan en santé? L'arrêt Jordan, ça oblige la machine de justice à tenir des procès dans des délais raisonnables. Sinon, les accusations tombent. Ce serait quoi l'équivalent d'un arrêt Jordan en santé? D'être opéré, d'être vu dans un délai raisonnable, sans quoi l'État va payer si vous allez au privé, parce qu'on a ce débat qui reprend là sur le privé-public, puis on l'a vu hier avec le ministre Christian Dubé. Mais pensez à ça. Est-ce que comme citoyens, nous payons une assurance maladie et quand l'État ne peut pas fournir le service dans un délai raisonnable, il devrait y avoir une contrainte. Et elle est dans le discours politique, mais pas appliquée dans les faits. Maintenant, Radio-Canada nous apprend que Québec souhaite compléter sa filière batterie avec une entente qui serait la plus spectaculaire de toutes les annonces qui ont été faites jusqu'à maintenant avec la compagnie Honda. Et on prend les moyens, et là on ne parle pas que de subventions pour l'implantation de l'usine de Honda, de venir établir donc une usine ici qui va fabriquer des cathodes et donc participer à la filière batterie. Alors, le gouvernement veut octroyer des subventions, mais aussi pourrait céder à Honda ses actions dans la minière Nemaska Lithium, d'une part, et lui vendre à un prix beaucoup plus bas l'hydroxyde de lithium, cette composante donc qui fait partie de la batterie. Thomas Gerbet dit qu'il y a des sources à l'interne qui laisse sous-entendre que si Honda s'entend avec Québec, ça pourrait vouloir dire une installation dans le secteur de Bécancour. L'Ontario est également dans la course. Alors, vous imaginez Honda qui arrive ici avec des projets d'investissement qui pourraient totaliser au Canada 18 milliards. Là, vous allez évidemment nous donner un paquet d'avantages, mais en plus, fabriquer ces batteries, on aura accès à une matière première, probablement beaucoup moins chère. Et c'est le ministre Fitzgibbon, on peut penser que le ministre François-Philippe Champagne est également dans cette affaire-là. La patate chaude du troisième lien à Québec. Ça, là, Bernard Drainville qui sort, puis c'est sûr que la caisse qui va présenter ses recommandations va y aller avec un lien routier. Il nous dit ça fin mars. Le rapport est prévu au mois de juin. Alors, est-ce que c'est un souhait, un rêve, ou c'est une fuite, puis on connaît déjà les conclusions du rapport? Là, il y a le chef du Parti conservateur du Québec, M. Duhaime, qui a commandé un sondage chez Léger, qui va rendre ça public aujourd'hui, c'est dans Le Soleil, 53% des répondants disent qu'un lien de plus, donc un troisième lien, incluant du transport collectif, va améliorer la fluidité. Là, on est en train de replanter dans l'image, en fait, dans la pensée populaire, que le troisième lien, c'est en train de revenir. Tu sais, M. Legault l'a échappé. Les députés de la région de Québec mettent de la pression, parce que c'est clair que c'est évidemment là que c'est le plus populaire. Puis oui, il faut prévoir, puis ça prend un lien routier, puis s'il le faut, on y mettra une petite touche de transport collectif. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Alors, c'est évidemment le cheval de bataille d'Éric Duhaime dans la région de Québec. Rapidement, la GRC qui, évidemment, frappe la mafia, enfin une filière de la mafia, avec cette opération massive. Et on pourra faire le point avec Daniel Renault. La mafia peut se faire secouer, peut se faire brasser, peut tomber, mais se relève habituellement assez vite et finit par se réorganiser. Aussi, ce matin, il y a cette histoire absolument incroyable d'un homme de 77 ans. Ça se passe dans l'Outaouais. C'est le journal Le Droit qui publie la nouvelle. Il est sur le coup d'une interdiction de conduire à perpétuité. Il a été condamné au palais de justice à une peine de 3 ans et demi de prison. Parce que le 28 décembre, l'accusé, Roger Murray, a conduit un pick-up sur le terrain de stationnement d'un motel dans l'est de Gatineau et que les policiers l'ont localisé et arrêté. C'est un multi-récidiviste. Depuis 1963, là, il collectionne les condamnations pour faculté affaiblie, omission de s'arrêter sur les lieux d'un accident, refus de fournir un échantillon et de conduire durant une interdiction de conduire. Quand vous regardez son profil judiciaire, le juge l'a souligné, depuis qu'il a 17 ans, il en a 77. Ça fait 60 ans qu'il a été condamné pour toutes sortes de choses, en plus des infractions liées à la conduite automobile. Vous retrouvez également des condamnations pour menaces de mort, pour évasion, pour fraude. Il a tout fait, à peu près ce qui existe dans le code criminel, sauf peut-être meurtre ou tentative de meurtre. Il a 77 ans. Incorrigible. Il n'y a rien à faire avec lui. Même s'il n'a pas le droit de conduire, il conduit. Et ça donne un peu, disons, le cas d'un récidiviste où il n'y a rien à faire. Alors, il s'en va en prison. Puis c'est sûr qu'il va déconner en sortant, comme il le fait depuis le début. Et je termine avec cette nouvelle qui est quand même assez intéressante. L'Agence de revenus du Canada a découvert, jusqu'à maintenant, parce qu'on pense que le chiffre va augmenter, que 232 de ses employés ont réclamé la prestation canadienne d'urgence pendant la pandémie alors qu'ils travaillaient. Donc, ils n'avaient pas droit à ça. 232 employés de l'Agence de revenus du Canada. Il y a 600 quelques dossiers qui sont présentement sous enquête, mais déjà 232 et ces employés-là ont été remerciés de leur service. Mais il faut le faire, là. Tu travailles pour l'État, probablement en télétravail pour l'Agence de revenus, et puis tu oses demander une prestation canadienne d'urgence en te disant il n'y a pas de vérification, puis c'est vrai qu'il n'y en avait pas à l'époque, mais là, c'est le retour du balancier. On commence à serrer la vis et à essayer de récupérer des montants d'argent qui ont été versés.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler ce matin de pesticides et de conflits d'intérêts. Vous avez sans doute vu ces reportages de Radio-Canada concernant le monde agricole et en particulier ce qui se passe avec les agronomes du Québec. La présidente de l'Ordre est avec nous, Martine Giguère. Madame Giguère, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je vais commencer avec les conflits d'intérêts. On s'est toujours demandé quand on a un agronome qui donne des conseils, jusqu'à quel point il peut être influencé par des vendeurs de pesticides, puis jusqu'à quel point ils ne deviennent pas aussi des représentants. Là, il devait faire une déclaration de conflit d'intérêts, et ce n'est plus le cas, c'est vrai?
En fait, la déclaration d'intérêt là, qui avait été annoncée là, en 2021,
ouais.
On l'a rendue facultative parce qu'on n'avait pas les assises, les fondements légaux pour la supporter. Donc, on souhaite moderniser notre loi. Vous le savez, là, on a trois grandes priorités à l'heure des agronomes. Moderniser notre loi, mieux encadrer la vente des pesticides parce que les pesticides sont en majorité en vente libre. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'un accompagnement agronomique d'un agronome pour aller acheter des pesticides. Donc, mieux baliser, encadrer l'apparence de conflit d'intérêts dans le service conseil et la vente. Donc, de permettre d'avoir une indépendance professionnelle au niveau du service conseil avec une règle de gouvernance qui va permettre là, que celui qui fait la vente et le suivi après-vente de l'application du pesticide là, puisse faire leur travail là, de façon là, indépendante.
OK, mais actuellement, là, clairement, il n'y a rien qui force un agronome à faire une déclaration pour dire « voici, je représente aussi les intérêts de telle ou telle compagnie ».
Ben, en fait, on leur recommande fortement.
Oui, mais ils sont pas obligés.
Mais au renouvellement, là, parce que l'annonce avait été faite lors du renouvellement des membres là, en 2021 avec les travaux qui avaient été faits à cette époque-là, l'Ordre avait annoncé là, que ça serait une obligation au renouvellement. Mais on peut pas l'obliger actuellement. Avec les lois et les règlements là, qu'on possède à l'Ordre, là, on peut pas l'imposer.
OK, mais je répète ma question pour que ça soit très clair. Là. Oui. Un agronome qui travaille pour une entreprise privée a pas à déclarer les revenus ou ses conflits d'intérêts parce qu'ils représentent des vendeurs de pesticides.
Non, il n'y a pas à... En fait,
vous voulez que ça soit ça, mais actuellement, il n'est pas obligé de le faire.
On n'a pas les outils tout réglementaires pour qu'il soit obligé de le faire.
Qu'est-ce qui vous manque comme outil, puis qui va vous les donner et quand?
Bien, on travaille sur la modernisation du projet de loi sur les agronomes. Vous le savez, là. Moi, ça fait 3 ans que je suis à la présidence de l'Ordre, puis c'est ce qui nous a occupés. Donc, je pense que ça passe par là. Il faut moderniser la loi sur les agronomes, puis les outils réglementaires qui découlent de ça, notre code de déontologie, ajouter des dispositions, encadrer la vente de pesticides.
C'est parce que c'est quand même troublant. Un ordre professionnel, par définition, ça protège le public.
Effectivement.
Et il y a une bonne partie des agronomes du Québec qui ont des liens commerciaux pour la vente de pesticides. On est d'accord avec ça?
En fait, on évalue là, qu'on a à peu près là, sur 3 200 agronomes, là, 150 agronomes là, qui seraient directement liés au service conseil puis à la vente là, de pesticides et autres intrants aussi, là, mais de pesticides.
OK. Et ils sont pas obligés de le dire?
En fait, ils déclarent là, dans leur renouvellement.
Pour arriver à ce chiffre-là, s'ils sont pas obligés de faire une déclaration, comment vous faites pour que pas dire qu'il y en a 150?
Ben, au renouvellement des membres, là, ils déclarent leur champ d'exercice. S'ils font de la justification prescription là, en phytoprotection. Donc, on a quand même des indications. On peut les classer là, par champ d'intérêt. Mais on ne peut pas, au renouvellement, demander des informations pour prendre, par exemple, en défaut un agronome par rapport à son code de déontologie. On ne peut pas faire ça actuellement parce qu'on n'a pas de disposition légale dans nos règlements.
OK. Si je me mets dans la peau des auditeurs ce matin, là,
oui.
Puis on a souvent parlé avec Louis Robert,
oui.
Qui dit on peut faire de l'agriculture au Québec sans recourir tout le temps à des quantités massive de pesticides. Êtes-vous d'accord avec ça?
Tout à fait d'accord avec ça. Puis c'est, je vous le dis, l'Ordre, son orientation, là, c'est d'être capable de mieux encadrer, de mieux réduire, d'accompagner les producteurs agricoles vers une réduction de l'application des pesticides, trouver des méthodes alternatives. C'est ça qu'on veut, mais pour y arriver, on a besoin d'un meilleur encadrement.
Mais vous êtes d'accord avec l'objectif principal, le constat qui est fait par Louis Robert, qui est de dire on peut produire aussi bien sans utiliser autant de pesticides. C'est possible de le faire. Il s'agit de, comme on dit, repenser la façon de produire.
Oui, on est tout à fait d'accord avec ça. Puis c'est ce qu'on souhaite aussi. Donc, on souhaite être capable d'accompagner les producteurs agricoles pour mieux utiliser les pesticides puis trouver des méthodes alternatives. C'est ça qu'on souhaite faire aussi à l'Ordre des agronomes.
Bien là, vous allez m'expliquer pourquoi vous embauchez comme DG quelqu'un qui est un lobbyiste du monde des pesticides.
Bien, il faut comprendre que Benoît Farrand, là, c'est une candidature de haute qualité pour nous. Benoît Farrand, il a près de 25 ans d'expérience dans le milieu agricole. Il est CPA aussi. Donc, ça, c'est une valeur, c'est un atout aussi pour une organisation comme l'ordre des agronomes. Mais M. Ferrand a passé les deux dernières années dans ces fonctions-là. Mais il y a un parcours en financement agricole, en gestion, direction générale, direction d'un centre de recherche. Donc, il est allé, oui, deux ans, là. Puis, là, aujourd'hui, M. Ferrand, là, il a envie de contribuer au développement puis à l'avancement de la profession.
Mais, non, mais je veux dire, je connais pas le monsieur, là. Je dis pas qu'il est pas compétent. Mais ce que je sais, c'est qu'il a travaillé pour faire la promotion des pesticides. C'est un lobbyiste de l'industrie agrochimique, là. C'est ça, sa job, non?
En partie, c'était une de ses fonctions.
Là, vous me dites, moi, je suis d'accord pour réduire les pesticides, puis votre DG est un promoteur des pesticides.
Le DG, là, il va adhérer aux orientations stratégiques du conseil d'administration. C'est ça son rôle. C'est de mettre en place les orientations, puis nos orientations, notamment en ce qui a trait aux pesticides, là, c'est une réduction, une meilleure utilisation, un meilleur accompagnement, puis un encadrement légal, là, pour encadrer la vente libre des pesticides au Québec. Donc, M. Ferrand, c'est là-dessus qu'il va travailler, puis nous aider à faire avancer les choses.
OK. Lui, vous lui demandez un changement de vocation.
Le mandat, c'est ça. Puis je pense que M. Ferrand est tout à fait à l'aise. Puis ça répond davantage à ses valeurs aussi professionnelles.
Un DG, c'est quand même pas là, un second violon. Là. C'est quelqu'un qui peut en être large dans une organisation. C'est la nature de sa job, c'est de diriger de façon générale l'Ordre des agronomes du Québec. Vous comprendrez pourquoi on est un peu méfiant en se disant... je connais pas le gars, là, sans enlever ses qualités, là, quelqu'un qui émane de l'industrie des pesticides, qui devient DG de l'organisme qui protège le public. Vous trouvez pas que ça sonne drôle?
Oui, je pense que je comprends la préoccupation puis l'inquiétude, là, mais faut comprendre qu'on a déjà eu même, je vous donnerai un exemple, notre directeur général actuel a aussi de l'expérience dans ce secteur d'activité-là, puis ça a été un atout pour mieux comprendre aussi les dossiers. Donc, je pense qu'on va aussi avoir cette opportunité-là avec M. Ferrand. Sa fine connaissance du secteur va être un atout, je pense, pour l'Ordre des agronomes. Pour poursuivre, pour être capable de continuer à pousser notre orientation puis à aller vers une meilleure réglementation, une réduction des pesticides.
Okay. On verra, mais j'ai de la misère à croire qu'un vendeur de pesticides devient soudainement converti et va faire la promotion d'une baisse des ventes puis de consommation de pesticides.
Mais écoutez, M. Ferrand va être obligé de mettre en œuvre les orientations stratégiques du conseil d'administration. M. Ferrand va avoir des comptes à rendre. Il ne pourra pas décider du jour au lendemain là, de changer les orientations du conseil d'administration. Donc, je pense qu'il va avoir un suivi serré.
Vous avez nommé quelqu'un qui n'est pas dans la conformité des orientations de votre conseil d'administration. C'est quelqu'un qui a fait exactement le contraire de ce que vous souhaitez faire.
Oui. Il a travaillé dans un secteur d'activité, puis ça, on le cachera pas, là. C'est connu, puis on n'est pas là pour le cacher non plus. On est tout à fait transparent. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'était un candidat de haute qualité qui avait toutes les compétences de gestionnaire pour accompagner la permanence, toute l'équipe, là, les employés de l'Ordre, dans leurs tâches aussi, là.
À quel moment vous pensez qu'on va avoir cette déclaration de conflit d'intérêts? À quel moment vous pensez là, qu'un agronome va être obligé de nous dire « Voici, moi, je suis payé, j'ai un revenu, j'ai des bonivantes quand je conseille à un producteur de prendre des pesticides. » À quel moment on devrait avoir ça?
Bien, quand on va être capable de moderniser notre loi, M. Arcan. Donc, pour nous...
Mais vous n'avez pas d'échéancier, vous n'avez pas d'objectif?
On n'a pas d'échéancier, on n'est pas maître de l'échéancier. Le porteur du dossier, là, c'est le ministère de l'Agriculture du Québec actuellement.
Quelle sorte de signaux il vous envoie, le ministère de l'Agriculture?
En fait, on n'a pas vraiment de réponse là, précise là, sur l'échéancier des travaux. Là.
OK. Autrement dit, si les modifications sont apportées, vous allez pouvoir le faire, puis c'est ce que vous voulez faire.
Exactement.
Merci d'être venu ce matin.
Ça me fait plaisir, merci.
Martine Giguère est la présidente de l'Ordre des agronomes du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Nous sommes tous marqués par ces images de voir un pont, une immense structure s'effondrer comme un château de cartes, comme une construction je dirais, qui semblait solide, mais qui en même temps demeure très fragile après que ce porte-conteneur ait frappé un pilier. Il y a 6 travailleurs de la construction qui demeurent introuvables jusqu'à maintenant et on pense évidemment que malheureusement ils sont décédés. Je vais faire le point avec Mathieu Mabin qui est journaliste. Il est à Washington. Il s'est rendu hier à Baltimore. Il travaille pour France 24. Mathieu Mabin, bonjour.
Oui, bonjour Paul.
Alors peut-être d'abord nous dire là qu'est-ce qu'on a comme information sur le bilan. Qui sont ces travailleurs là qui sont portés disparus?
Alors, les derniers éléments qu'on possède, mais à l'heure où je vous parle, ici depuis Washington, il n'y a pas eu de point presse des autorités de Baltimore qui sont à la manœuvre, hein, le maire de Baltimore en tête. Hein, c'est ce qui est très impressionnant dans cette histoire, c'est que cet incident s'est déroulé dans le port de Baltimore, une emprise très dirigée et très proche des autorités politiques de la ville pour les intérêts économiques qu'ils représentent. Donc c'est immédiatement le gouverneur et le maire de Baltimore qui se sont mis à communiquer et à s'adresser d'abord évidemment à la population de la ville, à l'Amérique et au monde en réalité, parce que cette histoire a sidéré un peu tout le monde, comme vous l'imaginez. Donc aujourd'hui, on en est à peu près au même point qu'hier soir, c'est-à-dire qu'il y a toujours 6 de ces ouvriers qui sont portés disparus, qui se sont littéralement volatilisés dans les eaux de ce bras qui conduit de l'Atlantique vers le port de Baltimore, enchevêtrés dans les débris du pont et probablement emportés par les courants. Ce qui a changé cette nuit, c'est que les plongeurs du port de Baltimore, souvent des pompiers aidés par les gardes-côtes, ont déclaré qu'ils ne recherchaient plus de survivants, bien entendu, mais tout simplement des corps, ce qui n'est pas tout à fait la même procédure pour eux.
Bon, on a cru comprendre et on vient d'identifier, de rendre publique l'identité de ces personnes disparues, des travailleurs immigrants, semble-t-il, pour une très grande majorité. Qu'est-ce qu'on sait de l'accident comme tel? Comment se fait-il que ce porte-conteneur est allé frapper le pilier du pont?
Évidemment, l'enquête a à peine démarré. Les autorités qui vont être chargées de faire conduire cette enquête, une enquête qui devra être indépendante, évidemment, qui ne pourra pas être menée ni par l'armateur, ni par la compagnie qui a fourni l'équipage, vous l'imaginez bien. Cette enquête, en réalité, en est à peine au balbutiement et tout simplement à la collecte de preuves sur le terrain. Maintenant, on a quand même une expérience assez importante des circonstances d'un accident de ce type qui est à la fois, et c'est tout à fait paradoxal, un accident très impressionnant et tout à fait exceptionnel par ses conséquences. L'effondrement d'un pont, bien entendu, ça n'arrive pas tous les matins et certainement pas un pont de cette taille. En revanche, là où il y a un paradoxe, c'est que cet accident est tout à fait classique sur le plan technique, c'est-à-dire qu'il est tout simplement le cauchemar redouté par tous les capitaines de bateaux de cette taille, tous les capitaines de marine marchande, tous les capitaines tout court, quiconque navigue sur les eaux, a comme obsession l'idée d'avoir ce qu'on appelle une avarie de barre au moment d'une manœuvre délicate et particulièrement dans un port. Pour manœuvrer dans un port comme celui de Baltimore, avec un bateau de cette taille, on rappelle qu'il s'agit d'un porte-conteneur de 300 mètres de long et de près de 50 mètres de large. C'est un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Pour manœuvrer un bateau de cette taille dans le goulet de Baltimore, avec les hauts fonds, avec les infrastructures un peu partout, avec les bateaux qui arrivent en face, et évidemment ces piles du pont qu'il faut forcément éviter, il faut des connaissances techniques tellement poussé que ce n'est même pas le capitaine du bateau qui est réellement à la manœuvre. On lui affecte ce qu'on appelle un pilote. Le port de Baltimore envoie, avec un petit bateau, à bord du gros bateau, un technicien, un spécialiste qui connaît tout par cœur, qui sait exactement à quel moment il faut pousser la barre pour surtout ne jamais approcher de la pile du pont. De barre est la conséquence, vraisemblablement. Il n'y a pas d'autre explication d'une panne électrique extrêmement grave à bord du bateau. Et même, je dirais, une multi-panne électrique, puisqu'il y a évidemment des dispositifs de secours. Un premier générateur a forcément montré des signes de faiblesse, voire est tombé en panne. Puis un second générateur. Et puis, en réalité, tous les systèmes de secours qui auraient permis à l'équipage de manœuvrer le bateau et d'influer sur ce qu'on appelle le safran, c'est-à-dire le volant du bateau, pour empêcher cette collision. En réalité, on est quasiment dans le cas d'un crash aérien, c'est-à-dire que il y a nécessairement une multitude de causes qui ont conduit à cet effet, et très probablement parmi ces causes, des erreurs humaines.
Merci beaucoup, Mathieu Mabin, qui est journaliste. Il est à Washington. Hier, il s'est rendu à Baltimore. Il y a d'autres informations qui circulent. Je dirais que ce sont des informations non confirmées, mais voulant que ce bateau ait connu des problèmes un peu de même nature, de perte de puissance, des problèmes avec son système de propulsion, mais tout ça reste à confirmer. Et puis je reviens parce que beaucoup d'auditeurs se posent la question, on a répondu pas mal à cette question hier matin, mais c'est important d'y revenir. Quand on regarde le nombre de ponts au-dessus du Saint-Laurent, et tout le monde se disait hier, oui, mais est-ce que ça peut arriver ici? Je fais entendre l'extrait de l'entrevue avec le capitaine Pascal Desrochers, pilote maritime depuis plus de 15 ans. Il est le président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central.
Les infrastructures ici qu'on a dans nos secteurs de pilotage sur le fleuve Saint-Laurent sont très bien protégées au niveau des piliers. Alors, ce type d'incident-là chez nous serait peu probable. Si je prends l'exemple du pont, pont Pierre-Laporte à Québec, les piliers sont sur la terre ferme, à l'extérieur du chenal. Le pont La Violette a été enroché, d'immenses enrochements tout le tour des piliers qui font en sorte qu'on ne peut pas se rendre jusqu'aux piliers. Au niveau du pont Jacques-Cartier à Montréal, ben les navires de plus gros gabarit ne procèdent pas jusqu'au pont Jacques-Cartier. Ce sont seulement les navires qui vont aller dans la voie maritime ou vers le vieux port de Montréal.
Et ajoutons que normalement, les porte-conteneurs transportent moins de conteneurs que ce qu'on a vu hier dans le cas de Baltimore. Et puis, juste pour peut-être une dernière précision, on a cru comprendre que l'équipage a pu signaler le problème majeur, donc la perte de puissance, que le bateau dérivait. On a même voulu comme jeter l'ancre pour essayer de garder le contrôle, ce qui malheureusement n'a pas été possible. Mais ils ont quand même averti de telle sorte que l'accès au pont a été bloqué. Sinon, le bilan aurait été encore plus lourd. Je rappelle qu'on a récupéré deux employés, mais malheureusement, tout indique que 6 ont perdu la vie. On en a parlé de façon très animée tantôt avec Pierre-Yves McSween, mais c'est aujourd'hui que le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, va présenter la seconde partie de sa réforme du droit familial. C'est une réforme qui est attendue depuis très, très longtemps. Évidemment, on n'a pas les modalités. On parle de créer un nouveau régime d'union parentale. Maître Sylvie Schirm, qui est une avocate, elle a travaillé beaucoup sur ce dossier-là. En droit de la famille, est avec nous. Maître Schirm, bonjour.
Bonjour.
D'abord, là, à quoi on doit s'attendre dans ce projet de loi?
Écoutez, c'est ça la question que tout le monde se pose, mais si on suit un peu à ce qui a été suggéré à l'époque par Dr. Alain Roy, on parlait d'un genre de prestation de compensatoire pour le parent qui s'est appauvri en raison du rôle qu'il aurait joué pour prendre soin des enfants. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait proposé? C'était un régime qui s'appliquerait seulement aux parents qui ont des enfants, non pas aux gens qui n'ont pas d'enfants. Il n'y avait pas question de pension alimentaire, comme on avait eu le débat là, dans Éric et Lola il y a déjà très longtemps. Alors, on voulait trouver une façon de compenser le parent que, par exemple, restait à la maison avec les enfants, a pris soin d'un enfant malade, a diminué son travail, a perdu, par exemple, non seulement des revenus, mais aussi, par exemple, des fonds de pension, etc., et d'autres avantages économiques. Et donc, on voulait trouver une façon de le compenser. C'était ça qui était proposé. Est-ce que c'est la même chose que le ministre va proposer aujourd'hui? Je l'ignore. Mais probablement, on est dans cette tendance-là, donc de pas avoir de pension alimentaire. Est-ce qu'on va aussi regarder la question, par exemple, je sais qu'à l'époque, on discutait de la possibilité de laisser aux gens mariés de renoncer au patrimoine familial. Est-ce qu'on va proposer ça dans le projet de loi? Je l'ignore. Mais c'était aussi une discussion. Donc, c'est une genre de compensation pour le parent qui aurait eu des désavantages économiques à cause du prise en charge d'un enfant.
OK. Question très simple. Est-ce que c'est d'appliquer aux conjoints de fait, là, qu'on appelle, les mêmes dispositions que pour les gens mariés quand il y a des enfants qui sont en cause?
Pas vraiment. Ou la pension alimentaire pour les enfants, ou la pension alimentaire, peu importe qu'on marie ou non, là, on paye pour les enfants. Mais c'est pas tout à fait ce genre de recours qu'on a pour les gens mariés. Les gens mariés ont beaucoup plus d'avantages que ça. Parce que, je sais pas, on n'a jamais parlé de partager les biens, par exemple. Est-ce que c'est ça qui va être suggéré? Je l'ignore. Est-ce qu'on va peut-être instaurer un genre de patrimoine familial pour les conjoints de fait. Je ne sais pas si ce n'était pas ce qui était proposé à l'époque par Dr. Roy et par le comité. Alors, c'était vraiment de trouver une façon. Maintenant, la question qu'on pose les juristes, c'est on va l'établir comment, cette perte financière?
Ouais.
Qui va nous guider là-dedans? Ça va être quoi les règles de preuve? Etc., etc. Alors, évidemment, là, on attend anxieusement, en tout cas, moi, j'attends anxieusement la conférence de presse là, de ce matin du ministre.
Oui, c'est prévu pour 11h15. Oui. Mais juste que, puis je vous pose des questions que mes auditeurs se posent évidemment, là. Il y avait tout ce débat d'être marié de force, c'est-à-dire que la loi viendrait marier des gens qui ne veulent pas être mariés. On n'est pas dans ça, là.
On n'est pas dans ça avec ce qui a été proposé, parce que marié de force, c'était de prévoir, par exemple, une pension alimentaire, de permettre à un conjoint de demander à l'autre une pension alimentaire. C'était aussi le partage des biens ou un genre de patrimoine familial qui serait imposé au conjoint de fait. Et c'est ça qu'on voulait éviter avec la proposition qui avait été faite à l'époque là, du comité. C'était justement de ne pas appliquer les mêmes règles pour les gens mariés que les gens non mariés, parce qu'on voulait respecter le droit à l'autonomie, on voulait et respecter le fait que les gens puissent choisir. Est-ce qu'on va probablement suggérer aussi des contrats de vie commune? Espérons-le, mais c'est quelque chose que les Québécois n'ont pas la tendance là, de signer. Parce que si, s'asseoir puis discuter d'un contrat de vie commune signifie s'asseoir puis discuter de la rupture. Puis les Québécois ne veulent pas parler de la rupture. Alors, quand on est bien, quand on est heureux en couple, c'est très difficile d'imaginer qu'est-ce que ça peut être suite à une rupture, qu'est-ce que peuvent être les droits et les obligations de chacun.
Vous parliez tantôt donc d'un des deux membres du couple qui s'est appauvri ou en tout cas qui s'est pas enrichi autant que l'autre durant la période là, de leur union pour toutes sortes de raisons, s'occuper de l'enfant. Bon, est-ce que on va calculer aussi le phénomène qui est de dire entre conjoints, mettons qu'on a deux enfants, mais j'ai contribué à l'enrichissement de mon conjoint ou j'ai contribué s'il y a une entreprise, une ferme par exemple, n'importe quoi. Ça, est-ce qu'on en tient compte actuellement? Pour les conjoints.
C'est dans la loi présentement, c'est l'enrichissement injustifié qui est le seul recours qui existe pour les conjoints de fait. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a même pas de définition de conjoint de fait. Alors, je m'attends que dans le projet de loi, il va y avoir une définition. C'est quoi un conjoint de fait? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il n'y en a pas dans la loi. Alors, l'enrichissement injustifié, c'est le seul et unique recours qui existe. Est-ce qu'on va écarter ce recours? Je ne sais pas. Ce recours peut se faire même si les gens n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas relié nécessairement à l'enfant. C'est relié au fait que quelqu'un a contribué pour aider l'autre à s'enrichir, qui est le typique cas, par exemple, de l'entreprise, la ferme, quelqu'un qui a laissé de côté sa propre carrière ou ses revenus à elle ou à lui pour aider l'autre et que l'autre s'est enrichi par la suite. Alors, ce recours-là, Et dans le code, est-ce qu'on va le diminuer pour des gens qui ont des enfants? Je l'ignore. Est-ce que ce recours-là va être affecté pour être remplacé par qu'est-ce qu'on appelle cette prestation cette compensation parentale, de l'union parentale, qui est un nouveau terme. Hein? C'est la première fois que j'entends union parentale.
Parce que c'est sûr que c'est pas simple, en fait, de calculer ce qu'un des deux membres de l'union du couple a perdu, par exemple. En termes de progression de carrière, ça peut donner des belles batailles, ça, d'interprétation.
Ah, et définitivement. Est-ce qu'on va être guidé quelque part là-dedans dans la loi? Je l'ignore. Est-ce qu'ils vont mettre une certaine barème? Est-ce qu'ils vont nous fournir des informations en disant voici comment est-ce qu'on peut calculer ça ou c'est quoi les pourcentages? Je l'ignore. Ça va être peut-être une question de preuve et donc on aura certainement à faire de la jurisprudence, ce qui prend quand même quelques années parce qu'on sait que ça prend du temps avant qu'on se rende devant les tribunaux puis avant qu'on aille à la cour d'appel, etc. Alors, c'est à voir.
Pierre-Yves, qui est comptable, évidemment, de formation, dit que les dispositions actuelles ne tiennent pas compte de la réalité, que quand, par exemple, le gouvernement va calculer pour des allocations le revenu familial, mais pour le montant de pension, seulement celui de l'ex-conjoint, peu importe avec qui elle vit et quels sont les revenus de l'autre, trouvez-vous qu'il y a un déséquilibre fiscal pour les conjoints de fait, souvent?
Il y a un problème au niveau des allocations parce qu'on va tenir compte des enfants de l'autre conjoint quand on fait ça. Alors, est-ce qu'on a regardé la question fiscale? Probablement. C'est pas le mandat, si je comprends bien, du ministre de la Justice, là. Mais c'est un débat qui est sur le terrain depuis assez longtemps. La pension alimentaire est non déductible, non imposable pour les enfants, ce qui est correct, là. Ça, c'est pas ça le problème. Je pense que les problèmes arrivent au niveau des allocations familiales quand, justement, il y a une couple qui est ensemble, il y a un enfant de l'union antérieure qui habite là, mais on va tenir compte là, de tous les enfants comme si c'était l'enfant du couple au niveau fiscal. Alors, c'est sûr que ça va affecter. Si le conjoint ou la conjointe a un revenu supérieur, ben cet enfant-là de l'union antérieure va avoir moins d'accès aux allocations familiales à cause de ce phénomène-là, parce qu'on regarde le revenu familial, peu importe qui sont les parents des enfants.
Merci beaucoup, Maître Schirm. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Maître Sylvie Schirm est avocate en droit de la famille. Elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Alors, c'est sûr qu'on spécule parce que le point de presse va avoir lieu à 11h ce matin. Mais je le vois par vos commentaires, par le ton enflammé tantôt de Pierre-Yves, jusqu'à quel point ça soulève les passions. Un auditeur qui dit « Mon ex est avec un millionnaire, puis j'y paye pareil une pension alimentaire. » Tu sais, c'est sûr, là. Puis la notion de se faire marier de force, ça vient chercher les gens en disant « C'est pas vrai que moi, j'ai pas voulu me marier, que le gouvernement va venir se mettre le nez dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple. » Alors, on verra à 11h ce matin ce que le gouvernement veut faire. Maintenant, je vais vous parler de deux choses ce matin. Hier, on discutait des fameux problèmes de vermine dans un centre de personnes âgées à Cartierville, puis également au bloc opératoire de l'hôpital Sacré-Cœur, où on s'est retrouvé avec la présence de mouches. Puis bon, tu dis, mais comment ça se fait que ça peut se produire? Bon, mettons qu'on l'explique un peu, mais que la situation peut perdurer aussi longtemps. Puis je vais vous parler également des abolitions de postes qu'on est en train de préparer dans un CIUSSS à Montréal, là, dans celui du centre-sud de l'île. Mais d'abord, Jean-François Dubé est président du syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du nord de l'île de Montréal. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je commence avec le cas du bloc opératoire de l'hôpital Sacré-Cœur.
Certainement.
Ça fait combien de temps où on a un problème avec la présence, exemple, de mouches ou de d'autres bestioles là, qui n'ont pas leur place dans une salle d'opération?
Monsieur Arcand, vous tombez sur la bonne personne. J'ai travaillé durant près de 17 ans au bloc opératoire de l'hôpital Sacré-Cœur. Lorsque j'ai été engagé en 2000, je suis monté au bloc opératoire 2 ans plus tard et le problème de mouches existait. C'est moi qui les ramassais.
Et ça veut dire que ça existe encore pratiquement 20 ans plus tard?
Ben, ça existe 20 ans plus tard. C'est un problème qui avec la vétusté de l'hôpital Sacré-Cœur, c'est des problèmes qui sont récurrents à chaque année. J'ai confirmé, il n'y en a pas présentement. Je sais que l'employeur a fait des efforts justement pour mettre des filtres et il y en a beaucoup moins. Est-ce que le problème perdure? On va le voir dès l'arrivée du printemps.
OK, parce que ça arrive à des moments précis?
Bien, évidemment, la chaleur.
Mais quand vous dites la chaleur, ça veut dire surtout l'été, là?
Exactement, surtout en période estivale.
OK.
Mais c'est un problème qui perd chaque année. C'est récurrent, là. C'est pas. On parle d'une vingtaine d'années, là.
Mais pour être bien franc avec vous, j'ai de la misère à croire qu'on n'a pas investi plus pour moderniser, rafraîchir. L'hôpital Sacré-Cœur, quiconque ne fait que passer, vous, enfin vos membres travaillent là, mais mon Dieu que c'est vieux, mon Dieu que ça a été, ça manque d'amour là.
Ah, ça manque beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans les nouvelles unités, l'urgence, l'unité obstétrique. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi. On en fait grande pompe dans les nouvelles. Mais évidemment, le bloc opératoire reste dans un sixième étage d'un hôpital qui est complètement vétuste, comme je le disais.
Parlez-moi des coquerelles dans la cuisine d'un centre de soins de longue durée de Cartierville. Ça aussi, c'est...
Vous dites, oui, vous dites d'un centre, mais moi, je vais vous parler de plusieurs centres.
OK, lesquels?
On parle de CHSLD Paul Gouin, CHSLD Laurando, où on est intervenu. Des problèmes importants de rats dans le sous-sol de l'hôpital Sacré-Cœur qui se promènent même dans la morgue. C'est des problèmes qu'on a adressés à l'employeur depuis Mathusalem. Ça fait maintenant 12 ans que je suis au syndicat et 3 ans que je suis président. Là, puis c'est des problèmes récurrents qu'on ramène. On essaye de patcher le problème, mais on ne règle pas à la source. Donc, un moment donné, c'est rendu quasiment normal là, de voir un rat circuler ou d'avoir des coquerelles dans les cuisines.
OK, mais vous faites des signalements, là, vous présentez des rapports, etc. Exactement. L'exterminateur y va, il tente de corriger, il revient, ils sont encore là, il revient.
Ben oui.
C'est comme
mais
ça.
On se fait dire, tu sais, c'est dans des milieux humides, puis leur traitement fonctionne très mal pour les dans les milieux humides. Donc, faudrait que la solution soit beaucoup plus importante, quitte à rediriger certains patients et de s'attaquer étage par étage. Parce que dès qu'ils s'attaquent au problème de coquerelles, par exemple, dans les cuisines, ce qui arrive avec ça, c'est que les coquerelles se propagent ailleurs. On a vu sur certains départements. On avait même une résidente au CHSLD Paul Gouin qui nourrissait les rats à l'extérieur. C'est assez affreux comme situation. Mais c'est dénoncé régulièrement à l'employeur. Les employés aussi nous dénoncent les situations, mais l'omerta dans la santé est quand même assez forte. Comme vous le savez, là, c'est pas la première fois qu'on en parle. Puis il y a certains employés qui ont un peu peur de perdre leur emploi, même si on les défendrait au maximum pour un cas comme ça. Là.
Okay,
je peux même vous rappeler. Oui.
Oui, non, allez-y.
Je peux même vous rappeler que l'employeur a un programme qui, si on est capable de prouver qu'on a ramené de la vermine, des coquerelles, des punaises de lit, l'employeur va payer les frais. Donc, c'est un problème qui se sait et qui est connu, là.
Quelques questions concernant les cuisines.
Oui.
Quand on a ces rapports qui indiquent la présence de la vermine, là, est-ce que la cuisine ferme? Est-ce qu'on fait faire la bouffe ailleurs ou la cuisine continue de fonctionner?
Ben écoutez, ça dépend des cas, mais les cas que j'ai observés, notamment au manoir Cartierville, la cuisine n'a jamais été fermée. Même le MAPAC refuse de se prononcer, savoir s'il y a eu amende ou si la cuisine a été fermée. Donc, c'est assez tabou quand même à l'extérieur de la population. Il a fallu qu'un exterminateur, sûrement qui a perdu peut-être un beau contrat, s'affiche dans les médias pour justement que ça sorte. Mais on déplore trop souvent qu'il faut que ça sorte dans les médias pour que le problème soit résorbé.
OK, c'est pas impossible qu'on ait continué à faire des repas dans un endroit, une cuisine où il y avait problème de vermine ou de coquerelle.
Ben c'est sûr que les employés sont quand même consciencieux là, donc ça a été, les postes de travail étaient quand même propres, mais comme je vous dis, est-ce que la cuisine a été arrêtée? Même le MAPAC refuse de se prononcer, et dans un cas, en tout cas, je suis sûr que la cuisine n'a pas été fermée.
OK. Et est-ce que les résidents de ces centres de soins de longue durée sont informés du problème? Est-ce qu'ils, si moi je vis là, est-ce que quelqu'un va me dire on a un problème de vermine puis ou de la présence de coquerelles?
Ben écoutez, moi je suis président de syndicat, j'ai pas le droit nécessairement de m'adresser à la population. C'est hors de mon mandat, sauf qu'on en entend des choses. Je peux seulement vous dire ça, monsieur Arcan, tout ce que j'ai vu, c'est que les bénéficiaires, les patients n'étaient pas au courant jusqu'à temps que quelqu'un envoyait une passée là. C'est comme ça que ça se passe, sinon ça reste quand même enfermé dans les sous-sols, dans les endroits humides.
OK. L'autre question que je vais vous poser ce matin, là,
oui.
Vos collègues du centre-sud de l'île de Montréal vont se retrouver avec des coupures de postes préposées aux bénéficiaires puis infirmières auxiliaires, là, principalement. Puis en même temps, on dit, ils vont pouvoir réappliquer sur des postes quand même. Puis bon, vous, est-ce qu'il y a des coupures qui s'en viennent sur votre territoire?
Ben écoutez, on peut jamais connaître la suite des choses depuis qu'on est rendu avec des structures aussi grosses que les C3S, les CIUS, puis qu'est-ce qui s'en vient avec la réforme du B. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que nous, même au contraire, on a eu une rencontre avec la direction la semaine passée qui nous confirmait qu'il y avait des embauches de préposés aux bénéficiaires. Des personnes travaillant pour des agences qu'on engage justement pour pouvoir être mieux formés, pour pouvoir être formés avec les normes du CIUS et aussi de la contribution syndicale. Fait que chez nous, j'ai pas entendu de coupure. Je ne peux pas parler pour les infirmières, M. Arcan. C'est le syndicat de la FIC et puis je n'ai pas l'information à ce jour.
OK, mais comment vous êtes un leader syndical? Comment vous expliquez qu'on coupe des postes d'infirmières, des postes de préposés alors que supposément on en manque?
Écoutez, c'est complètement ridicule. Le cas de Centre-Sud, là, c'est une des choses ridicules que j'ai entendues dans ma vie. Le gros problème qu'on a au niveau des installations comme le CIUS Centre-Sud ou le CIUS du Nord de l'île de Montréal, c'est les problèmes de rétention et d'attraction. Avec des milieux qui sont difficiles, les gens n'en sont plus intéressés à travailler dans le milieu. Les salaires, même si on a eu une bonne négo, les salaires ne sont pas concurrentiels. Quelqu'un qui travaille dans une cuisine ou qui est préposé aux bénéficiaires va faire plus d'argent s'il s'en va travailler chez Costco, là. C'est ça la réalité. C'est ça le message qui est lancé. Donc, le problème, c'est même s'ils voulaient couper chez nous, il y a un problème de rétention et attraction. On a même fait une entente avec l'employeur pour des postes qui étaient refusés plusieurs fois par nos membres, de les ouvrir pour des nouvelles personnes, et ces gens n'en veulent même pas. On a fait des sondages, on a fait une grande campagne pour ça. Les gens ne veulent pas les postes.
Merci, donc, M. Dubé. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci, M. Arcand.
Au revoir.
Merci, bonne journée.
Jean-François Dubé est le président du syndicat des travailleurs et travailleuses du CIUS du nord de l'île de Montréal. Alors, mais on sait que Québec a annoncé un plan de révision. Ça, c'est la phrase classique, polie, pour optimiser les dépenses gouvernementales. Puis on vous parlait tantôt avec Jonathan de l'augmentation du nombre d'employés de l'État depuis que la CAQ est au pouvoir. Ça n'a pas baissé. C'est facilement 10 000 personnes de plus dans l'appareil. Puis là, on peut aussi ajouter des ajouts de personnel, évidemment en santé et en éducation. Mais disons que l'État, c'est de plus en plus lourd. Puis demander à la machine bureaucratique de faire son examen et de s'autodiscipliner puis de réduire le nombre de postes, oubliez ça, ça n'arrivera jamais.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, on va parler de cette opération policière menée par la GRC contre un clan de la mafia montréalaise. C'était assez spectaculaire. Daniel Renault est avec nous de La Presse. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour, Paul.
Alors, donc, grosse opération de la GRC. Est-ce qu'on sait quel clan, quel groupe était visé?
Oui, c'est le clan Lopez. Le clan Lopez, Paul, c'est un clan qui existe à Montréal depuis des décennies, mais dont on n'a pas parlé souvent. En fait, ils menaient beaucoup leurs opérations de façon très discrète durant longtemps, mais on en entend un petit peu plus parler depuis quelques années. Fait qu'imaginez, la mafia maintenant à Montréal n'est plus pyramidale depuis la mort de Vito Rizzuto. Elle est cellulaire, c'est-à-dire qu'elle est composée de différentes cellules. La principale, c'est toujours la cellule du clan des Siciliens, l'ancienne cellule de Vito Rizzuto. Mais autour de cette cellule-là, il y a différents clans, dont le clan Lopez, qui a été frappé hier. Mais lui-même, le clan Lopez, est séparé en deux. Il y a la partie qui relève du patriarche, Serafino Oliverio, et l'autre partie qui relève plus de ses neveux, les trois frères Lopez. Il y en a un qui a été assassiné en République dominicaine l'année dernière. Et actuellement, il y a un lien comme un conflit entre les deux, là, le patriarche et les neveux. Mais c'est vraiment le clan des neveux qui a été visé hier.
Mais est-ce qu'ils font toujours dans le même type d'activité criminelle, trafic de stupéfiants? Est-ce qu'ils ont une spécialité?
Oui, exact. En fait, les Lopez sont dans l'importation de cocaïne, dans le trafic de cocaïne, trafic de drogue. C'est un clan qui possède beaucoup de restaurants, de bars, de cafés et d'immeubles, en particulier dans le nord-est de Montréal. On disait même hier qu'il y a des bouts de rue qui leur appartiennent pratiquement. Et ces activités-là de trafic de stupéfiants se font dans ces commerces-là, dans ces établissements licenciés, mais aussi les paris sportifs, hein, le fameux book dont on parle depuis des années. Tous les paris sportifs illégaux sont en grande majorité contrôlés par la mafia, mais c'est pas juste le clan des Siciliens qui en possède. Visiblement, c'est aussi le clan Lopez qui possède une partie des paris sportifs. Et c'est une preuve que les enquêteurs de l'UMECO, de l'unité mixte contre le crime organisé de la GRC, ont tenté d'aller chercher hier, d'obtenir.
Maintenant, Daniel, il y a eu des arrestations, il y a eu des perquisitions. Est-ce que ça veut dire que ces leaders de ce groupe du crime organisé vont comparaître bientôt? Ou si, en raison de l'arrêt de Jordan, on va attendre, là, pour être certain de, disons, pas se faire coincer dans les délais?
Oui, ben c'est ça. En fait, hier, on a assisté à une série de perquisitions. Il y a eu des arrestations, oui, mais ils ont tous été relâchés en fin de journée. Parce que c'est ça, Paul, tu le dis, c'est en raison de l'arrêt Jordan qui limite les délais judiciaires à 18 mois et à 30 mois en cour supérieure. Donc maintenant, les policiers agissent de cette façon-là. Ils vont multiplier les perquisitions en cours d'enquête pour amasser leurs preuves, pour être prêt à divulguer toute la preuve au moment où la couronne va être en mesure de porter des accusations. Et la GRC a l'habitude de mener de longues enquêtes. Donc, je suis pas dans le secret des dieux, mais je suis pas prêt à dire qu'ils vont être accusés dans 3 mois. Ça pourrait être plus long. Le temps aussi d'obtenir d'autres autorisations judiciaires. Et là, les criminels ont l'habitude, depuis plusieurs années maintenant, de déposer des requêtes en cour supérieure pour au sujet de prolongation de confiscation de biens saisis. En fait, c'est la couronne qui dépose ça, mais souvent les accusés, les futurs accusés s'y opposent. Donc, on embarque là, dans un processus judiciaire qui pourrait être long avant qu'effectivement on finisse par porter des accusations. Mais c'est sûr que c'est vraiment un dur coup qui a été porté hier à un des clans importants de la mafia montréalaise. Je vous dirais pas le clan le plus important, mais c'est quand même un des clans importants. Mais la preuve ne sera pas facile à faire, hein, parce qu'on parle de blanchiment d'argent au travers d'immeubles, au travers de différentes activités. Les Lopez aussi possèdent des serveurs de crypto-monnaie. Donc, est-ce qu'on va être en mesure de prouver tout le processus de blanchiment d'argent? C'est certain que c'est une preuve qui va être importante, qui va être lourde là, à accumuler. Là.
Bon, justement, tu dis c'est un coup dur. Est-ce que d'autres membres, d'autres groupes du crime organisé vont essayer de reprendre le terrain, leur piquer ce qui leur appartient parce qu'ils sont probablement affaiblis? Comment tu vois la suite des choses au sein de la mafia?
Bien, ça, c'est Paul, ce que tu dis, c'est récurrent. À chaque fois qu'un clan est frappé, c'est sûr que là, on a toujours l'habitude de dire qu'on coupe la tête de l'hydre, mais elle repousse rapidement. C'est sûr que ça ne met pas à terre les Lopez, en ce sens où probablement qu'ils vont être capables, en mesure, ça va les déstabiliser durant un certain temps, vont être capables de reprendre leurs activités. Mais ils vivent avec une épée de Damoclès, et ces dernières années, le clan des Lopez s'est retrouvé en conflit avec un clan voisin, ce qui explique, entre autres, les nombreux incendies criminels qui ont visé leur établissement licencié, leur véhicule, peut-être même l'attentat contre Serafino Oliverio, le patriarche du clan, il y a 2 ans. Peut-être le meurtre aussi de Giuseppe Lopez en République dominicaine l'année dernière. Donc, visiblement, ils sont en conflit avec un autre groupe ou l'ont été récemment. Est-ce que à la suite de la frappe d'hier, on pourrait assister à une reprise d'un autre conflit? C'est très possible, mais je vous le dis, puis je ne sais pas encore quels seront les tenants et aboutissants, mais c'est un dur coup qui a été porté hier.
Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée.
Merci, Paul.
Au revoir. Daniel Renaud, qui est journaliste pour l'équipe d'enquête de La Presse.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.